découvre ensemble, comme tous les jours, ce lieu d'histoire de patrimoine, cet objet que nous avons d'ailleurs découvert en amont avec votre jeu On Découvre Ensemble. Et cette fois-ci, c'est la partie histoire racontée par notre invité aujourd'hui, qui est Marc Breuer. Marc Breuer, c'est le responsable directeur, on peut l'appeler comme ça, du musée à Bas-sur-Mer, le Grand Blockhaus. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, on a fait gagner Pierrette, qui a deviné ce Grand Blockhaus. Et là, c'est le moment de nous raconter l'histoire de ce lieu, un lieu, on peut le dire, de famille, puisque vous tenez ce musée avec votre frère.
Exactement,
Luc.
Tout à fait. Nous sommes deux frères passionnés d'histoire, et une passion qui a commencé tout petit. Un peu des fois au désespoir de nos parents au départ, qui ne comprenaient pas trop notre intérêt pour cette histoire,
c'est vrai.
Pour l'histoire particulièrement de la Seconde Guerre mondiale.
C'est ce que j'allais vous demander, l'histoire, mais dans une certaine période.
Exactement, voilà. Et nos parents étaient nés, mon père n'est plus là, mais ils étaient nés tous les deux, ils sont nés en 1940, ils ont vécu la guerre enfant, ils n'ont gardé que des mauvais souvenirs, comme malheureusement beaucoup de Français, et c'est une période qui a été très dure, qui a beaucoup marqué les gens, et nous, on est dans les années 60-70, cette période était déjà lointaine derrière nous, mais on s'y est intéressé, accroché, on a lu tout un tas de choses sur ce sujet, on voulait comprendre ce qui s'était passé, et on s'attachait aussi aux objets. Parce que pour nous, déjà,
C'était des petits trésors,
exactement,
en fait.
Exactement, voilà, on trouvait un petit trésor, une chose. On a aussi, très jeune, couru, comme beaucoup, ici, sur les plages, partout sur le littoral, on courait dans les blockhaus, on était avec une petite lampe de poche, et on inquiétait notre mère qui était derrière nous à
se dire,
est-ce qu'on va ressortir? Est-ce que les enfants vont ressortir? Et on voulait comprendre un petit peu ce que représentaient ces lieux un peu mystérieux, ces blockhaus, qui étaient abandonnés, qui étaient sur les plages, qui, des fois, basculaient. On s'est attaché à ce lieu d'histoire, parce qu'on n'est pas originaire de la région.
C'est ce que j'allais vous dire.
Exactement.
Quel lien vous avez avec la région? Bon, maintenant, on le sait, mais
maintenant,
à l'époque,
c'était
une région parisienne.
Exactement. On est nés tous les deux à Enghien-les-Bains, on est en région parisienne. Et on a fait notre scolarité sur place. On s'est toujours intéressé, passionné pour l'histoire
de l'Ouest de la France.
De l'Ouest de la France, de la Seconde Guerre mondiale. Ces histoires incroyables qui se sont passées ici, comme par exemple sur la poche de Saint-Nazaire. Et donc, on était en vacances dans le coin, on voulait en savoir plus, on se renseignait, on cherchait des livres, des choses. Et puis un jour, on a décidé que notre passion deviendrait notre métier.
Ah, ça y est, vous avez passé le cap.
Exactement, et donc nos parents nous ont soutenus toujours dans cette démarche, bien qu'ils étaient un peu inquiets, comme tous parents, quand les enfants doivent prendre leur envol. Et en fait, on a décidé de faire de choisir ce lieu à Bas-sur-Mer, qui était un immense blockhaus, qui fait presque 300 mètres carrés intérieur.
C'est énorme.
C'est énorme, c'est très rare. Il a été construit qu'en 2 exemplaires dans toute la France. Et on s'est dit, ce blockhaus représente en fait un château fort du XXe siècle. C'est une trace de cette histoire tragique, de cette Seconde Guerre mondiale.
Un vestige.
Et on va faire de ce vestige un musée. Et en fait, c'était pas évident, parce que c'est plus facile de faire un musée dans un lieu moderne.
Et bien sûr.
On a moins de contraintes.
Bien sûr.
Mais on voulait garder une authenticité. Et on veut jouer sur la curiosité que va inspirer le site. Quand les gens voient ce blockhaus, ils font « Oh, ça leur paraît surprenant ».
Déjà, quand on arrive, c'est hyper impressionnant. C'est énorme comme bâtiment.
Oui.
Et vous vous êtes dit, bon, vous n'êtes pas laissé impressionner par l'ampleur des travaux. Vous avez dit, nous, on va en faire quelque chose d'ouvert et d'accessible au public pour qu'il comprenne son histoire.
Oui, c'est exactement ça, mais on avait un petit grain de folie, dire, parce que se lancer dans une telle aventure, on peut parler d'une aventure, quand on dépose notre dossier pour proposer cette idée d'un musée dans ce blockhaus de la Seconde Guerre mondiale à Bas-sur-Mer, on le dépose auprès de la mairie, auprès de la Marine nationale, des anciens combattants qu'on va contacter, et ainsi de suite, et on a 24 et 27 ans.
Oui.
Donc, on est, entre guillemets, très jeune pour créer un musée sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Loire-Atlantique.
Et qui, en plus, n'est pas votre histoire.
Et qui n'est pas notre histoire directement. Mais on avait énormément fait de recherches, on avait collecté énormément d'informations, on avait vraiment fait beaucoup de travaux en amont. Et du coup, quand nous sommes arrivés à la mairie de Bas-sur-Mer pour présenter ce projet, au départ, on a eu un accueil un peu froid. Puis finalement, les gens ont été conquis, puis on les a rassurés. On leur a expliqué ce qu'on allait y installer, ce qu'on allait y raconter. Et puis, la Marine nationale, pareil, a accepté le challenge. On a dit, OK, allez-y. On nous a pas aidés, mais on nous a pas non plus mis de bâton dans les roues.
Vous avez réussi à convaincre votre futur public, en fait.
Exactement. Et puis, l'ouverture s'est faite le 1er juillet 1997, après des travaux très lourds.
Combien de temps de travaux pour...
Alors, 5 mois et demi.
Ça paraît très peu, non?
Ce qui est court. Et en même temps, on n'avait pas trop le choix, parce qu'on avait abandonné nos métiers respectifs.
Et oui, il fallait ouvrir au plus vite le musée.
Et il fallait ouvrir au plus vite, voilà. Moi, j'ai fait une école de commerce à Bordeaux. Mon frère est ingénieur en informatique. Donc, on avait abandonné nos cursus respectifs pour se lancer dans cette passion de l'histoire.
Tout plaqué pour la passion, l'amour de cette histoire.
Et venir habiter, parce qu'on était aussi tombés amoureux de cette belle région.
Et ben voilà, moi, ça, je comprends.
Il faut le dire que ça a été un de nos choix aussi, de choix de vie. de se dire, allez, habiter dans le coin, moi j'habite Guérande aujourd'hui, j'en suis, depuis 21 ans, j'en suis ravi.
L'homme le plus heureux. Et bien justement, on va en parler de ce lieu qui regorge d'histoire de cette Seconde Guerre mondiale, ce grand blocos, on peut le dire, évidemment 300 mètres carrés, hein, à découvrir, un musée qui vous transmet son histoire. On en parle d'ici quelques instants, vous restez bien avec nous. Vous aussi, Marc Brouwer, je rappelle que vous êtes le directeur, le responsable de ce grand musée avec votre frère Luc.
France Bleu Loire-Océan.
On découvre ensemble. Jeannelle Bernard.
Y'a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée. C'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort. Il a froid, il a peur. J'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. On a babo cañoso, tenabi colonioso. Avec des mots, on passait sous le manteau qui brillait comme des couteaux. Il jouait de la dérision comme d'une arme de précision. Il est sur le ciment, mais ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs. Font rire les enfants, mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ça dépend de ton attitude. C'est 100 ans de solitude. Y'a du sang sur mon piano. Y'a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends. J'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs. Font grincer les dents du grand libérateur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur.
Bernard Lavillier avec Noir et Blanc sur France Bleu Loire-Océan. Bon, nous, on va continuer de se plonger dans l'histoire de ce grand blocos à Bas-sur-Mer avec notre invité Marc Brouwer. C'est le directeur de ce musée qui s'est lancé dans cette histoire folle il y a maintenant quelques années avec son frère Luc. Alors Marc, on le disait, vous êtes lancé à 24-25 ans hein, dans cette rénovation, cet achat de ce blockhaus pour en faire un musée. Vous avez eu le soutien après beaucoup d'efforts de la ville avec ce travail de rénovation qui a duré 5 ans. Aujourd'hui, c'est un musée qui marche très bien. C'est l'un des 6 sites les plus visités du département.
Effectivement, c'était pour nous un bel objectif. Ce musée a maintenant atteint un chiffre, on atteint à peu près 39 000 visiteurs par an. Mmh. Alors c'est un public très familial, beaucoup de gens qui rentrent pour leur première fois de leur vie dans un blockhaus. Justement, il y a cette curiosité avec ce site. Et à l'intérieur, en fait, on va utiliser les 300 mètres carrés que offre ce bâtiment pour y présenter les événements majeurs de la région. On va parler du naufrage terrible du Lancastria, un des pires naufrages du XXe siècle. Plus de 3500 soldats anglais qui vont périr noyés au large de Saint-Nazaire le 17 juin 1940. On va parler du raid héroïque des Anglais, qui est peu connu en France et qui mérite d'être connu. Mm-hmm. Pour les Anglais, ils l'appellent « the greatest raid of all », le plus grand raid de tous les temps.
D'accord.
Et on vous parlait à des touristes anglais du raid Chariot, l'opération Chariot, le raid sur Saint-Nazaire en mars 1942. Oh oui, tout de suite, les yeux s'illuminent. Exactement. On va aussi découvrir pourquoi la région, ici, tout ce secteur ne sera pas libéré à l'été 44. Quand les grandes villes de Rennes vont être libérées, Rennes c'est le 4 août 1944, puis Nantes est libérée le 12 août 1944. Et là, à ce moment-là, tout le monde s'attend sur la presqu'île et tout le secteur de Saint-Nazaire à être libéré dans la foulée.
Alors que non, c'est le dernier d'ailleurs.
Exactement, malheureusement, l'état-major allemand envoie un ordre, il faut tenir coûte que coûte ces grands ports, comme Lorient, Saint-Nazaire, il y aura aussi des poches plus au sud, mais celle qui nous occupe aujourd'hui, Saint-Nazaire, va être libérée seulement le 11 mai 1945. Et c'est une histoire tout à fait incroyable, que les gens découvrent aussi au musée, c'est le thème principal du musée.
Alors quand on rentre dans ce blockhaus là, qui est immense, qui est très imposant quand on arrive devant, qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur? Des reconstitutions authentiques, des petites scènes avec des mannequins, comme
c'est
vous le disiez?
C'est exactement ça. Mm-hmm. Nous avons privilégié l'authenticité. Alors déjà, on est dans un lieu d'époque. Alors quand on touche les murs, c'est du béton armé.
Évidemment.
2 mètres d'épaisseur de béton armé, des portes blindées de 700 kilos. Mmh. Et puis, le tout, c'est de faire passer l'histoire. De faire passer l'histoire de façon humaine, de façon précise. Et on se sert d'objets, d'uniformes, qui vont raconter des petites histoires, qui vont raconter l'histoire locale. Les gens découvrent des scénettes. Vraiment, on a essayé d'être le plus réaliste possible.
Qu'elles racontent, ces scénettes, par exemple?
Alors, on a, par exemple, la reddition de la poche de Saint-Nazaire. Mmh. On voit donc 3 officiers allemands qui viennent signer la reddition le 8 mai 1945.
Oui.
En face d'eux, on a donc des scènes avec autour de la table, qui est d'ailleurs la vraie table sur laquelle a été signée cette incroyable reddition.
Vous avez pu récupérer des objets vraiment authentiques?
Ah oui, le musée il n'y a que des objets authentiques dans
d'accord.
le musée. Voilà, c'était ça.
C'est parce que vous avez eu quoi? L'aide de témoignages, de dons aussi peut-être d'anciens combattants?
Exactement. Alors, dans un premier temps, nous-mêmes, nous étions des collectionneurs, on était fouineurs, on a fait des centaines de marchés aux puces, de vide-greniers, de rencontres avec des collectionneurs, ainsi de suite, de façon à collecter et avoir plein d'uniformes, de façon à remplir un musée. Parce qu'un musée, il faut montrer des
Bien
choses.
Sûr.
Et ensuite, dans un deuxième temps, à partir du moment où le musée a été ouvert, en 97, nous avons reçu beaucoup d'anciens combattants. Et eux-mêmes nous ont apporté leurs souvenirs, parce que l'histoire, on ne l'invente pas. Il fallait bien qu'on ait le contact avec tous ces gens.
Et
donc
oui.
on a pu interviewer aussi tous ces soldats ou tous ces civils qui nous ont apporté du vécu et aussi leurs objets ou leurs photos. Et on a collecté comme ça énormément de documents.
Des milliers de photos, il me semble.
Des milliers, 25 000 photos.
25 000 photos.
25 000 photos sur la poche de Saint-Nazaire.
Elles ne sont pas toutes exposées au musée.
Non, du tout.
On a fait un tri quand même, une sélection.
Voilà, exactement. On ne présente que les plus intéressantes. Mmh. On a aussi des interviews fines, tout un tas de choses,
oui.
qui permettent une petite salle vidéo à la fin qui clôture la visite, parce que c'est un très bon moyen pour faire passer l'information. Et puis ces témoins qui ont vécu cette histoire sont vraiment très poignants.
Mmh. Quand on fait cette visite donc dans ces 300 mètres carrés, on peut aussi monter à l'étage et là on a une vue qui surplombe à 360 degrés
oui.
tout ce qu'il y a autour de ce blockhaus.
Exactement.
C'était quoi ce blockhaus?
Beaucoup sont visités rien que pour ça.
Alors, oui.
On est dans un blockhaus qui a une fonction très particulière.
Mmh.
Ce blockhaus est un immense poste d'observation et de commandement.
D'accord.
Il verrouille en fait tout l'accès à l'estuaire de la Loire.
Mmh.
Et donc c'est pour ça qu'il est positionné à Bas-sur-Mer. On est sur un pic rocheux qui est à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer, un des endroits les plus hauts du secteur.
C'est un vrai point stratégique.
Exactement. Mmh. Lui-même, le blockhaus monte à 15 mètres, ce qui fait que quand on est tout en haut dans ce poste d'observation, nous sommes à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et ça permettait de voir très très bien, on voit régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement, on voit Belle-Île en mer à 40 km à l'œil nu.
Eh bien.
On voit très bien Noirmoutier, et bien sûr, on voit très très bien l'estuaire de la Loire.
Mais c'était pour surveiller un maximum de surface. Alors, du coup, c'est un lieu en haut qu'on peut venir découvrir, et on va surtout s'intéresser à ce que vous avez préparé, enfin du moins réalisé dans le musée, en dessous pour les enfants.
Oui.
Les familles.
Tout à fait.
C'est très ludique, c'est éducatif et vous allez nous en parler, vous continuez de nous en parler avec le grand blocos de Basse-sur-Mer. Je le rappelle, c'est Marc, vous entendez Marc Brouwer, le directeur du musée.
France Bleu Loire-Océan.
On découvre ensemble. Phil et Steele avec Portugal sur France Bleu Loire-Océan. Bon, on va continuer de vous parler de cette histoire, de ce blocos qui regorge d'anecdotes puisqu'on en a plein à vous raconter avec notre invité ce midi. C'est Marc Brouwer, le directeur de ce musée, le grand blocos de Basse-sur-Mer que l'on découvre ensemble. Bon, Marc, vous étiez là pendant cette musique avec Portugal en train de me raconter de très belles histoires parce que c'est vrai que j'avais envie de dire, de souligner quand même que c'est un blocos assez particulier. Alors c'est vrai qu'il est très imposant, mais il a été, on peut le dire, une sorte de supercherie durant la guerre par les Allemands puisqu'il était camouflé, ce blocos.
Exactement, ça peut paraître assez incroyable. Mm-hmm. Il est très massif, il fait 25 mètres de long, 15 mètres de haut.
Donc on peut pas le rater.
Comment camoufler, eh oui. Exactement. Les Allemands eux-mêmes se sont dit, il est visible comme le nez au milieu de la figure, excusez-moi l'expression. Mais, et du coup, les Allemands se sont dit, bon, si nous on le voit, il faut absolument que les Alliés vont le voir aussi, les aviateurs alliés principalement. Donc il faut lui donner une silhouette neutre ou le cacher dans le paysage. Et ils ont trouvé quelque chose d'assez surprenant. Au lieu de mettre des filets de camouflage ou de l'enterrer dans du sable, on est un petit peu, c'est un lieu un peu compliqué, on est sur une falaise rocheuse.
Mais le but était d'avoir
garder cette visibilité,
vue,
voilà,
visibilité.
Très en hauteur. Et donc le choix sera fait de camoufler le blocos en maison. Alors, en fait, les murs font 2 mètres d'épaisseur, comme je vous l'ai dit. Le toit, pareil, 2 mètres d'épaisseur. Et les Allemands vont peindre donc, des fenêtres en trompe-l'œil sur tout le tour du bâtiment. Ensuite, ils vont rajouter des superstructures en bois pour imiter des toits de maison. Et l'effet était tout à fait saisissant.
On passait dessus, au-dessus en avion, on ne pouvait pas s'imaginer
exactement,
que c'était un blocos.
Exactement, les aviateurs alliés le survoleront à nombreuses reprises sans jamais le bombarder.
Et d'ailleurs, vous avez eu la chance d'avoir l'occasion d'avoir un pilote américain qui est venu visiter ce blocos et qui avait survolé pendant cette période de guerre.
Exactement,
c'était le blocos.
C'est un colonel, le colonel Ben Walsh. D'ailleurs, il est en photo dans le musée parce qu'on a eu sa visite. Et c'était un monsieur adorable et d'une grande gentillesse. Il avait 86 ans quand il a fait sa visite, il y a une dizaine d'années. Et il arrive dans le dans notre bâtiment, dans le musée, et puis je lui dis, voilà, regardez mon colonel, le bâtiment, voilà son camouflage réalisé à l'époque avec les fenêtres peintes, les fausses toitures.
Il
en reste interdit, et puis il dit, oh, incroyable. Et puis il me regarde, puis il me fait, oh les vaches.
Je me suis bien fait avoir.
Et alors il regarde en détail le camouflage et tout ça, puis il m'explique, il dit, voilà, nous, avec nos avions, pour éviter la flaque, la DCA allemande, on volait à haute altitude, à 7-8 000 mètres.
Et
il dit, à 7-8 000 mètres, je dois avouer que c'est tout à fait méconnaissable.
Bien sûr, bien sûr.
Il dit, je l'ai survolé, mais et il dit, j'apprends même, c'est incroyable, il dit, j'ai 86 ans, c'est maintenant que j'apprends que les blocos pouvaient être camouflés en ville là. Et il dit, les services de renseignement américains ne m'en ont jamais touché un mot. Et en partant à la suite de sa visite, il était ravi, il a fait une très longue visite dans le musée, et il nous a mis un petit mot dans le livre d'or, et il nous a mis, après avoir essayé de bombarder cet endroit, finalement je suis ravi de vous visiter aujourd'hui.
Une belle histoire, oui. Une belle histoire avec ce pilote d'avion qui avait survolé ce blocos. C'était le seul d'ailleurs à avoir été camouflé par les Allemands à l'époque, où il y en a eu d'autres?
Alors
comme
il y en a eu d'autres, ce n'est pas très courant, on va dire, il y a eu à peu près 4 à 5% des blocos qui seront camouflés de cette façon.
D'accord.
Au Fort de Lèves, il y avait des camouflages comme ça, identiques, avec des pignons de maison, des fenêtres peintes. Mais celui-ci, c'est vraiment l'un des plus élaborés dont on a eu connaissance sur tout le mur de l'Atlantique.
Bon, aujourd'hui, quand on passe devant, on reconnaît bien, évidemment, que c'est un blocos. Vous avez quand même gardé une petite partie pour montrer que oui, en effet, il avait été camouflé à l'époque. On a encore la petite fenêtre peinte.
Exactement.
Sur une des parties du blocos pour l'entrée. Alors, un blocos qu'on découvre, on l'a compris, et c'est un musée aujourd'hui, avec sa famille, ses amis. Vous avez aussi mis en avant ce côté ludique et éducatif pour les enfants, pour qu'ils comprennent cette histoire, mais de manière ludique, en fait.
Exactement. En fait, il est important pour nous de passer cette mémoire, cette histoire, les témoins.
La transmettre.
Cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, les derniers témoins sont encore parmi nous, mais il n'y en a vraiment plus beaucoup. Mmh. Pour les plus jeunes, ils ont 93, oui. 94 ans, pour ceux qui ont vécu cette histoire en tant que soldats. Après, effectivement, les jeunes générations appréhendent cette histoire différemment, et il faut le faire passer. Il faut faire passer aux jeunes, c'est important. C'est une histoire qui a été vraiment ultra marquante et donc qu'il faut vraiment pas perdre le souvenir. Et donc on s'est dit, comment aussi intéresser les jeunes, comment leur faire une histoire qui soit pas non plus trop rébarbative. Et donc on fait passer cette histoire au travers d'un petit jeu.
Un petit jeu de piste.
Et les enfants sont à la recherche d'un personnage mystère, dont je tairai le nom ici, évidemment, sur cette antenne.
Bah oui, sinon on va trouver avant.
Évidemment. Et donc, ce personnage mystère leur permet à la fin de parcourir tout le musée. Les parents sont enchantés, ils nous disent, oh, vraiment, votre jeu, c'est une super idée. Et quand ils reviennent à l'accueil avec le nom du personnage mystère, on leur donne un petit diplôme.
Oh,
et on leur fait un petit tampon officiel. Et voilà, et ils sont ravis, ils repartent tout fiers avec leur petit diplôme.
Eh ben, voilà une belle idée pour ces vacances scolaires qui sont en ce moment. Évidemment dans la région, donc vous pourrez passer un moment et puis surtout apprendre l'histoire de ce blocos qui fait partie, on le sait bien, de la Seconde Guerre mondiale. Rapidement, avant de se quitter, Marc, vous avez vous aussi, avec votre frère, vous lancé dans d'autres aventures, d'autres blocos. On peut retrouver le blocos hôpital des Sables d'Olonne et puis le blocos de La Rochelle, le bunker de La Rochelle à découvrir aussi. On peut retrouver ces adresses sur votre site internet, le www.grand-blocos.com. Merci beaucoup d'avoir été avec
nous. C'est un plaisir.
Et puis j'espère encore bien d'autres belles histoires que vous pourrez venir nous raconter ici sur France Bleu Loire-Océan.
Avec grand plaisir.
Merci à vous
beaucoup.
Marc, belle journée, au revoir.
France Bleu Loire-Océan.
On découvre ensemble Janelle Bernard.